La première,
11h midi,
question clé.
Question clé
avec Véronique Thiberghien.
Bonjour à vous, merci de nous rejoindre pour ce Question Clé. Jusqu'à midi, nous sommes ensemble, vous le savez, dans cette émission qui est interactive. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, porter vos témoignages à l'antenne ou simplement nous envoyer suggestions, avis, sensations par rapport à tout ce qui sera dit dans cette émission concernant la maladie d'Alzheimer. C'est la démence la plus fréquente au monde puisque selon l'OMS, la maladie d'Alzheimer représente 60 à 70% de tous les cas de démence. Les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale montre que si les symptômes de la maladie se manifestent après 65 ans, les lésions apparaissent 15 à 20 ans plus tôt dans le cerveau, dès la cinquantaine. En dépit des recherches intensives menées depuis plus d'un siècle, la maladie d'Alzheimer demeure à ce jour incurable. Seuls des traitements symptomatiques efficaces, uniquement au début de la maladie, sont disponibles. La difficulté à laquelle se heurtent les scientifiques est cette apparition tardive des symptômes, un stade irréversible. Alors quels sont les enjeux actuels ? La prévention, le diagnostic, oui, s'ils sont précoces. On va préciser tout ça avec notre invitée, le docteur Catherine Gillin, est avec nous.
Partagez votre expérience au 02 737 26 06.
11h midi sur la première.
Question clé.
Question clé.
La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative pour l'instant incurable qui entraîne la perte progressive des facultés intellectuelles liées à une atrophie du cerveau. Elle entraîne une détérioration progressive des fonctions cognitives, attention, perception, mémoire, intelligence, langage, qui se répercutent sur le comportement et la vie quotidienne. Progressivement, le malade devient totalement dépendant, son humeur se modifie et peu à peu, il ne reconnaît plus ses proches. L'évolution de la maladie finit par retentir sur son état général, troubles alimentaires et problèmes de déglutition engendrent dénutrition et amaigrissement. Alzheimer se propagerait d'une zone à l'autre du cerveau en suivant les branchements entre les cellules cérébrales. Il ne s'agit pas d'un agent infectieux, mais d'une protéine appelée tau, dont l'agrégation sous forme de filaments étouffe et détruit progressivement les neurones, du cortex entorhinal jusqu'à l'hippocampe, puis au néocortex. La protéine tau se déplacerait d'un neurone à l'autre via les synapses, sorte de lien que les cellules cérébrales utilisent pour communiquer entre elles. Alzheimer se caractérise aussi par une accumulation de plaques de bêta-amyloïde, une forme de protéine, entre les cellules nerveuses, qui bloque la transmission des signaux d'une cellule à une autre au niveau des synapses.
Notre cerveau belge à nous est avec nous. Docteur Catherine Gillin, bonjour.
Bonjour.
Neurologue, on le rappelle, et on va parler de cette maladie d'Alzheimer, puisque le 21, c'est la journée mondiale, oui. Et qu'on s'était dit, mon Dieu, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la maladie d'Alzheimer. Et du coup, on s'est posé la question de savoir, mais quoi de neuf sur cette maladie alors, on va le dire tout de suite, et on reviendra sur le petit son qu'on vient d'entendre, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur lesquelles on va devoir un peu se préciser les choses. Quoi de neuf ? Pas grand-chose, in fine, et c'est bien malheureux, mais c'est malheureux à l'échelle du temps humain, évidemment.
Oui, c'est malheureux à l'échelle du temps humain, puisque bon, je pense que tout le monde a envie d'être rassuré, de pouvoir se dire que si un jour il est victime de cette maladie, il aura de quoi la traiter. Mais en termes de recherche, ça bouge vraiment énormément. Donc, on n'a rien de neuf à disposition, c'est-à-dire... avec l'exigence d'une efficacité et d'une innocuité qui sont prouvées. Mais les recherches sont vraiment, parmi dans le monde entier, extrêmement actives et efficaces, vont un peu tout azimut. Pourquoi ? Parce que finalement, la maladie d'Alzheimer, c'est le résultat de l'addition de plusieurs facteurs différents sur, on le pense, une prédisposition génétique au départ. Et ces facteurs sont soit environnementaux, soit endogène, c'est-à-dire vraiment dû à une erreur de métabolisme du patient lui-même, comme par exemple les troubles du sommeil ou les choses comme ça. Et finalement, c'est très difficile de décortiquer le tout et d'arriver à trouver une médication qui puisse agir sur tous les niveaux aussi en même temps. Donc il est vrai que il y a vraiment beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites avec des essais cliniques, mais des essais cliniques qui prennent du temps, puisque c'est une maladie lentement évolutive, donc il faut pouvoir étudier sur un laps de temps assez long les effets possibles du traitement, avec jusqu'à présent des résultats qui sont plutôt décevants. Mais soyons rassurés, vraiment, les chercheurs sont très efficaces.
Oui, parce qu'in fine, et là je vais parler en langage patient potentiel que je suis aussi d'ailleurs, c'est ce que l'on attend quand on dit « quoi de neuf », ce serait un médicament qui répare le cerveau.
Absolument.
C'est ça. Mais avant de pouvoir réparer le cerveau, il faut pouvoir connaître vraiment toutes les arcanes de ce cerveau et les arcanes de la maladie en elle-même. On vient d'entendre dans le son, par exemple, parler de la protéine tau. Ça fait quand même partie de certaines nouveautés. C'est ce qu'on en sait plus sur cette protéine tau, sur son rôle ou sur son lien avec la maladie, en tout cas.
Nouveauté, excusez-moi, la protéine tau a été découverte quand même dans les fin des années 80.
Oui, mais à l'échelle de la recherche,
c'est peu. C'est exact qu'elle joue un rôle très important. Donc, qu'est-ce qui se passe peut-être très brièvement? Comment se développe un cerveau humain finalement? Quand le bébé naît, il a un cerveau assez vierge des informations, bien sûr. Il a un potentiel génétique, il a, on va dire, une architecture, une structure de base. Mais toutes les expériences que l'enfant va faire, toute l'éducation que vous allez lui donner, tous les apprentissages qu'il va avoir, vont progressivement s'inscrire, c'est-à-dire quoi ? Génétiquement se mettre dans des zones particulières du cerveau. On va ainsi développer une zone spécifique pour le langage, une zone spécifique pour le calcul, une zone spécifique pour l'orientation spatiale, une autre l'orientation temporelle, une troisième pour le jugement. Donc toutes ces fonctions dites intellectuel dans le sens cognitif, c'est-à-dire intellectuel lié aux apprentissages, c'est vraiment l'apprentissage de l'enfant qui va inscrire ça dans le patrimoine génétique et dans cette espèce de cartographie. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et bien sûr, il y a au départ de tout ça une zone particulière pour la mémoire. Petit à petit, tout au long de notre vie, nous engrammons dans notre mémoire avec des couches successives. C'est pour ça qu'on parle aussi progressivement d'une mémoire immédiate et d'une mémoire ancienne. Vous vous rappelez très bien certains souvenirs qui sont parfois très anciens. Et en même temps, vous continuez à apporter des éléments nouveaux. Votre biographie, on appelle ça la mémoire épisodique. Tous les soirs, pendant que vous vous endormez, vous enregistrez tout ce que vous avez fait la journée. Cette mémoire épisodique est une mémoire assez récente. La première chose qui s'altère dans la maladie d'Alzheimer, c'est cette zone de mémorisation. Et d'ailleurs, c'est souvent la mémoire épisodique. C'est souvent oublier ce qu'on a fait hier, ce qu'on a dit il y a une semaine, le film qu'on a vu. Et puis l'évocation des mots, ça on y reviendra peut-être sur la clinique. Et puis progressivement, ça s'étend au reste du cerveau. Alors cette protéine tau, pour revenir à elle, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux altérations principales. Il y a une altération dans le neurone lui-même, comme on a dit dans ce petit exposé petit son, préalable. Oui. Donc le neurone, c'est un petit être vivant en soi, si je peux me permettre ça. Il a un potentiel génétique, il a un patrimoine génétique, il a des protéines qui font une espèce de charpente, de squelette qu'on appelle. Il a tout un métabolisme, il mange, il prend dans le sens qui l'intéresse pour pouvoir fonctionner, et puis il élimine. Donc il y a tout un processus vivant qui se passe dans le neurone. Et il y a l'accumulation d'une protéine anormale qui s'appelle donc tau, T-A-U, qui finit par faire une espèce de petite pelote de laine enchevêtrée, qui rend le neurone non fonctionnel, donc il s'atrophie, il devient tout petit, il perd en volume et en substance, et puis finalement il n'est plus fonctionnel. Il y a aussi en parallèle cette fameuse protéine amyloïde qui a été décrite par Alzheimer, qui a découvert les premières altérations en découpant le cerveau d'une personne qui était décédée de cette maladie. Et la protéine amyloïde va, elle, se déposer dans la charpente entre les différents neurones et interférer avec la connexion des neurones qui sont encore fonctionnels. Donc il y a deux processus, à la fois des neurones eux-mêmes qui deviennent malades et qui ne sont plus fonctionnels et qui meurent, et puis parmi les fonctionnels, il y a une interruption de transmission d'informations efficaces. Et tout ça au départ, dans les zones spécifiques, au départ dans la mémoire, le langage, le jugement, et progressivement la maladie qui évolue va s'étendre à d'autres zones du cerveau pour avoir in fine une perte totale. Mais la protéine tau se retrouve dans d'autres maladies neurodégénératives. Ça, c'est important à pouvoir dire. Il n'y a pas que l'Alzheimer qui est ce qu'on appelle une taupathie.
Mais on en a besoin de cette protéine tau?
Non, on n'en a pas besoin.
Pas d'office tout de suite?
Mais c'est très difficile à éliminer. On peut pas les injecter. Mais pour l'instant, on n'a pas de traitement anti-protéine tau.
Oui.
Donc, il y a d'autres tauopathies. Maintenant, c'est pas tout. Il y a d'autres substances, la synucléine aussi qui est altérée. Enfin, comme je vous disais, c'est vraiment un enchevêtrement, c'est le cas de le dire, d'un tas de processus pathologiques qui finalement détricotent les apprentissages du patient.
Tout ce que vous venez de nous expliquer ici, les mécanismes, commence souvent plus tôt que le moment où l'on se rend compte, où apparaissent les premiers symptômes réels de la maladie. C'est ça qui pose aussi un gros problème aujourd'hui.
Alors ça, je pense que c'est une notion absolument fondamentale à comprendre, qui permet à la fois de comprendre pourquoi la recherche de la compréhension des mécanismes et la recherche des médicaments est difficile, et aussi pourquoi on est démuni lorsque l'on fait le diagnostic de la maladie. Donc, on est de plus en plus persuadé par toutes les techniques d'investigation que la maladie se déclenche à peu près au milieu de vie, vers 40, 45, 50 ans, par, justement, sans doute, le déséquilibre, si vous voulez, du potentiel des neurones sains de, entre guillemets, continuer à fonctionner normalement et du potentiel de réparation qui se passe dans notre corps à longueur de journée et surtout de nuit. Mmh. Alors pourquoi j'insiste ? Parce qu'effectivement, une des choses fondamentales à comprendre, on en a parlé dans certaines émissions du sommeil précédemment, c'est l'importance de la qualité du sommeil et la qualité d'un sommeil bien représenté dans notre horloge biologique. Il ne suffit pas de dormir un nombre d'heures sur 24 heures, il faut dormir correctement par rapport à notre horloge biologique et ne pas avoir des altérations graves du sommeil, comme par exemple le syndrome d'apnée du sommeil, qui est très très destructeur, qui provoque des désaturations en oxygène absolument majeures et qui sont donc pourvoyeurs de toxicité au niveau du neurone.
On va revenir sur tout cela et on va répondre aussi à la question de Robert qui va nous permettre de parler de l'épidémiologie de cette maladie dont on dit qu'elle va exploser encore dans les années à venir. Robert de Namur a laissé sur le site lapremière.be, site sur lequel vous pouvez aussi d'ailleurs laisser vos messages, lapremière.be en cliquant sur l'icône de l'émission. Vous pouvez aussi le faire par SMS au 6031 évidemment, ou le faire via le site lapremière.be, je l'ai dit, 02 737 26 06 pour vos questions, 02 737 26 06. C'est Catherine qui prend vos appels aujourd'hui.
11h midi sur la première.
Question clé.
Question clé.
Avec Véronique Thiberghien.
Et le docteur Catherine Gillin qui est avec nous pour nous parler de cette maladie d'Alzheimer. Robert de Namur, on a toujours eu des petits vieux, entre guillemets, est-il, retombés en enfance, qui n'ont plus toute leur tête. Était-ce déjà Alzheimer, mais on n'en connaissait pas encore le nom? Sinon, il faut se poser des questions. Ne serait-ce pas simplement dû à un allongement de la durée de vie? Ou plus interpellant, cela pourrait-il être dû à un mode de vie qui est le nôtre? Pollution, alimentation dénaturée, etc., nous dit Robert. Alors c'est vrai qu'en matière d'épidémiologie, on parle d'une explosion de la maladie. Mais l'explosion, alors là, on va tout de suite mettre un petit bémol, elle n'a pas forcément lieu dans nos pays, à nous, l'explosion en question.
Tout à fait. En fait, cet auditeur a raison à tous les points. Dans le temps, on disait que le papy perdait un peu la tête et que c'était normal, entre guillemets, lié à l'âge. On appelait ça même des démences séniles. C'était vraisemblablement déjà des Alzheimer. Je dis vraisemblablement parce que vous l'avez rappelé au départ, l'Alzheimer ne représente pas non plus toutes les démences, et c'est très important de le rappeler aussi, il y a d'autres formes de démence que la maladie d'Alzheimer, que ce soit dégénérative, vasculaire ou autre, ça c'est vraiment important à le préciser. Mais c'est vrai que la maladie d'Alzheimer est d'une part de mieux en mieux diagnostiquée, on a beaucoup plus de diagnostics cliniques et non cliniques comme des techniques de radiologie ou d'exploration du liquide céphalorachidien, etc., qui permettent d'affiner le diagnostic. Elle est peut-être moins taboue. Je crois que les gens viennent plus facilement consulter maintenant, on en parle plus, il y a des gens célèbres qui ont eu la maladie d'Alzheimer, qui a un petit peu, c'est un peu descendu du côté à cacher comme ça, donc elle est certainement plus diagnostiquée. La population vieillit, en tout cas dans nos pays, certainement. Mais quand on regarde les statistiques, cette explosion qui est exacte, on est à 40 millions de personnes dans le monde pour le moment, au-dessus de 60 ans, et on estime que ce chiffre va doubler à peu près tous les 20 ans. Mais pourquoi ? Parce que c'est dans les pays développés qu'elle apparaît. par justement, malheureusement, une industrialisation de leur mode de vie.
Comme la Chine, par exemple.
Voilà. En Chine, ça a terriblement augmenté. Ils ont complètement changé leur hygiène de vie. Et puis, la population vieillit aussi différemment. Donc, il y a à dire à tous les niveaux de ce qui a été cité par cette personne. Dans nos pays, par contre, là, le taux diminue un tout petit peu parce que nous avons de bien meilleurs contrôles des facteurs de risque cardiovasculaire. Parce que ça joue aussi. L'hypertension artérielle est un facteur prédisposant. Un excès de cholestérol est un facteur prédisposant. On parlait des altérations du sommeil, ça entraîne des troubles cardiovasculaires aussi. Donc, en tout cas, c'est un des facteurs favorisants qui est déjà potentiellement mieux réglé maintenant. Donc, statistiquement, il y en a un petit peu moins dans nos pays.
C'est ça, ça ne veut pas dire qu'on supprime la maladie, ça veut simplement dire qu'on contrôle mieux certains des facteurs qui sont favorisants du développement de cette maladie.
Tout à fait.
Et du coup, on ne l'empêche pas de se développer, mais en tout cas, on la recule. Quelque part.
On la recule, ou parfois, chez certaines personnes, peut-être qu'on empêche de se développer. Ça, c'est sûr. Si quelqu'un, comme on le disait au départ, comme c'est une accumulation de prédispositions, si quelqu'un a une prédisposition génétique et qu'il a une hypertension qui va vraiment se développer et qu'il a une mauvaise hygiène de vie et qu'il mange des tas de graisses trans, machin, bazar, qui nous mettent des mauvaises graisses, il est nettement plus à risque que s'il ne le fait pas, il peut ne pas développer la maladie. Ça, oui.
Dans ces facteurs, justement, vous l'avez dit, la relation avec l'état vasculaire général aujourd'hui démontrée. On fait beaucoup de campagnes, justement, pour surveiller cet état vasculaire général. Mais il y a aussi le diabète, l'obésité, l'inactivité, le tabac, la nourriture, la manière de s'alimenter, les prédispositions génétiques. Effectivement, cette accumulation de facteurs-là.
C'est l'accumulation de facteurs. Alors, clairement, le diabète est malheureusement en cause à la fois par la maladie diabétique et par l'insuline.
Oui.
Donc, une personne diabétique est une personne qui doit être particulièrement vigilante à équilibrer le mieux possible son diabète, et c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est une contrainte de vie, mais ça vaut la peine parce que le facteur de risque est quand même multiplié par 3. Ça, c'est important. Et puis, effectivement, on le disait, l'alimentation, l'obésité, le tabac certainement, mais le tabac sans doute par l'altération vasculaire que ça provoque. Alors, le tabac, c'est pas seulement boucher les grosses artères, c'est aussi abîmer les toutes petites artères, les tout petits vaisseaux périphériques. Faut pas oublier qu'une vascularisation, c'est quoi? C'est une espèce d'arbre avec des branches de plus en plus petites qui vont aller irriguer des petits coins particuliers. Mais il est absolument fondamental que les petites branches terminales toutes fines soient bien fonctionnelles. Sinon, vous avez des micro-infarctus. On appelle ça des lacunes dans notre jargon d'imagerie sur résonance magnétique.
Rien à voir avec les lacunes quand on en parle dans le français.
Non. et donc, c'est fondamental d'être vigilant, de ne pas cumuler les facteurs de risque.
Ne pas les cumuler. Et alors, une autre difficulté de la science aujourd'hui, c'est éventuellement de pouvoir évacuer complètement certains de ces risques. Et d'autre part, se dire, mais celui-là, évidemment, il est le plus important parmi les autres. Il n'y en a pas un qui ressort.
Alors, ce qui ressort de vraiment important, c'est le facteur de risque génétique. Et ça, on n'y peut rien.
Oui,
ça, c'est certain. C'est lié à des altérations sur le chromosome 21. Et preuve en est, c'est que les patients qui sont atteints de trisomie 21, donc les patients dits mongols, ce sont des patients qui développent tous des altérations de type Alzheimer au niveau du cerveau. Vers eux, c'est vers, comme ils ont une espérance de vie plus courte, c'est vers la trentaine que ça commence à se développer. Et on le sait, et dans ce chromosome 21, il y a des choses très particulières, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait très bien qu'il y a des morceaux, si vous voulez, des chromosomes qui sont particulièrement facteurs de risque. Quand on est porteur de ça, on est plus à risque. Et la génétique, on ne peut rien y changer. Nous n'avons pas encore, mais c'est en cours de recherche, de thérapie génique. Alors ça, ce serait évidemment l'idéal. Ce serait de pouvoir avoir un traitement qui puisse corriger les altérations génétiques. Là, c'est sûr qu'on est en plein traitement efficace.
Il y a une recherche dans cette orientation-là.
Oui, aussi.
Ah oui, vraiment.
Oui.
Parce qu'on imagine aussi le coût et le temps que prennent les recherches génétiques.
Alors ça, c'est quelque chose de très très important à dire. Hein. Les gens disent, oui, mais enfin, ils ne savent rien, je comprends la patience. Mais faire de la recherche, c'est quelque chose qui demande vraiment du temps. Il faut d'une part avoir des modèles animaux, on le fait sur, donc on a fait des souris dites transgéniques, on a provoqué des altérations de ce genre chez la souris pour comprendre vraiment les mécanismes de base. On essaie de décortiquer, si vous voulez, en provoquant telle altération, telle altération, telle altération, pour comprendre le mécanisme de chaque altération spécifique et d'essayer de savoir comment l'éradiquer ou la prévenir. C'est ce qui serait encore le mieux. Donc ça prend déjà du temps. Une fois que l'on trouve une piste, il faut pouvoir trouver une forme de traitement, que ce soit immunité, médicaments, etc. Et cette forme de traitement, trouver un moyen de l'appliquer à l'homme. Comment le faire absorber? Est-ce que c'est par voie orale? Est-ce que c'est par voie nasale? Est-ce que c'est par voie intraveineuse? Est-ce que c'est par voie de transplantation directe dans le cerveau? On a tout essayé, il faut bien le dire. Et puis, comme c'est une maladie dégénérative qui est lentement évolutive, il faut pouvoir faire un test sur de nombreuses années. Oui. Et donc, on a eu des thérapies, notamment immunitaires, on a appelé ça des vaccins, qui ont été essayés avec vraiment des espoirs. Et puis finalement, les espoirs sont un peu retombés. Mais ça a mis 20 ans de se rendre compte que les espoirs retombent.
On va parler de dépistage, parce qu'on a beaucoup de questions justement par rapport à ce dépistage précoce. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être le plus tôt possible dépisté. Je vous propose de voir ça juste après ceci.
11h midi sur la première.
Question clé.
Question clé avec Véronique Thibergien.
Avec le docteur Catherine Gillet, on parle de la maladie d'Alzheimer, on va parler dépistage aujourd'hui aussi dans cette émission. Je vous rappelle que le 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer et vous aurez très certainement l'occasion de lire beaucoup de choses à ce sujet et notamment sur les prises en charge à l'heure actuelle. On y reviendra aussi un petit peu dans cette émission, mais beaucoup de personnes se posent la question de savoir quand on parle de dépistage précoce finalement, quand est-ce que ça pourrait intervenir et qu'est-ce qui existe aujourd'hui en matière de dépistage tout court?
Alors, dépistage dans le cadre d'une maladie dégénérative, c'est un mot encadré de pincettes. Par exemple, on entend beaucoup de dépistage au niveau du cancer, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la prostate. Pourquoi? Parce que lorsqu'on découvre tôt ces cancers-là, on peut vraiment traiter le patient et le guérir. Le gros problème de la maladie d'Alzheimer, c'est que si vous parveniez à le découvrir effectivement 10-15 ans à l'avance, on n'a rien à proposer. Donc ce n'est pas dans la routine clinique de proposer à tout le monde vers 45 ans de passer faire un petit tour par une ponction lombaire, par exemple, pour savoir et une analyse génétique pour savoir si on est vraiment, entre guillemets, en train de la développer ou pas. Parce que qu'est-ce que vous en faites une fois que vous le savez, puisqu'il n'y a aucun traitement à proposer? Donc ça, c'est le gros problème.
Traitement curatif, j'entends.
Oui, c'est ça. Traitement curatif. Les traitements que nous avons, ce sont des traitements d'accompagnement qui ralentissent un peu l'évolution de la maladie chez certaines personnes, mais rien de plus, pour le moment en tout cas. Donc, dépistage est vraiment à prendre, entre guillemets, avec pincettes. Donc, il faut être attentif plutôt aux premiers signes, aux premiers symptômes, qui peuvent effectivement arriver relativement tôt. Alors je dis ça parce que la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas forcément une maladie de la personne âgée. Statistiquement, oui. Il faut savoir qu'après 80 ans, il y a presque une personne sur 4 qui est atteinte, donc c'est énorme. Mais à 60 ans, il y a déjà une sur 5% qui peuvent être atteintes. Et il y a des patients de 30, 40, 50 ans qui en sont atteints. Qu'est-ce qui doit alarmer? C'est surtout une modification du mode de fonctionnement du patient et de sa personnalité. Alors le plus souvent, c'est effectivement des oublis immédiats dans ce qu'on appelait la mémoire épisodique. Mais qui n'est pas distrait,
hein? Oui.
Qui ne cherche pas le nom de la personne qui doit présenter? Qui ne cherche pas ses clés? Qui ne cherche pas? Donc il faut faire très attention de pouvoir faire la différence entre ce qui est une importante distractivité et un vrai trouble de la mémoire. Ce qui doit inquiéter, c'est quand c'est récurrent. C'est quand la personne a bien dormi, est en forme, n'est pas déprimée, n'est pas anxieuse et qu'effectivement il s'installe des oublis, des questions répétées, des oublis de rendez-vous. Et alors, ce qui est très important, c'est aussi l'apparition de difficultés d'utilisation des objets du quotidien. Ça, c'est un signe qui ne s'invente pas. Quand tout à coup, quelqu'un ne sait plus comment fonctionne un appareil, par exemple, là, on doit quand même, et que ça se répète une fois de plus, que c'est pas une fois de temps en temps, il faut pouvoir s'inquiéter. Quelqu'un qui commence aussi à avoir des difficultés d'orientation temporelle ou d'orientation spatiale. Et le langage, parfois, peut même précéder les troubles de la mémoire. Quelqu'un qui a une altération du langage, alors ce qui est très important, c'est que c'est un langage vraiment, donc comme c'est la zone du cerveau qui s'occupe du langage, c'est aussi le langage écrit dans l'écriture et dans la lecture. C'est pas seulement lors d'une conversation courante.
C'est quoi? C'est changer des mots, ne plus...
Oui, il y a de tout. Il y a ne pas trouver le mot, ce qu'on appelle le manque du mot, ou l'indice aide. Donc quand on dit par exemple, quelqu'un cherche un instrument de musique et parvient pas à le trouver, on dit c'est un instrument de musique avant et là il peut le retrouver. Oui. Donc rechercher les mots. Et puis petit à petit, c'est une altération du mot, dire un mot pour un autre, rester dans la même catégorie mais dire un autre
c'est
mot.
C'est le sucre, pardon.
Oui, c'est ça. Et puis modifier le mot. Changer vraiment la structure même du mot. Et puis, petit à petit, c'est toute la phrase qui devient modifiée avec des défauts de grammaire, des défauts de conjugaison. Et là, on en arrive déjà dans des états assez avancés. Alors, il y a aussi des maladies qui ne commencent que par ça. Le syndrome de Mésulam, c'est une altération du langage uniquement. Et toutes les autres fonctions cognitives, donc les fonctions intellectuelles d'apprentissage, sont préservées pendant quelques années.
On a pas mal de questions aussi, encore une fois, sur ces questions de dépistage. On a notamment eu une réaction par SMS de Sophie qui nous dit qu'effectivement, peut-être que ne pas savoir que l'on a la maladie permet aussi de se dire que finalement l'insouciance de la vie qui nous reste est peut-être aussi importante qu'une un traitement qui n'existe pas encore. Et on va revenir dans quelques instants avec vous, si vous le voulez bien aussi, sur l'importance du sommeil. Parce que vous avez un petit peu parlé du sommeil tout à l'heure. Alors du coup, on a plein de témoignages. Oui, mais moi je suis narcoleptique. Oui, moi j'ai des troubles du sommeil. Est-ce que je vais d'office faire un Alzheimer, Catherine? Rassurez-moi.
Non, d'office non. Ah. Mais ce sont des facteurs de risque.
D'accord.
Et donc c'est vrai que vraiment, je prends mon bâton de pèlerin tous les jours, j'insiste. Il faut avoir un sommeil aussi compétent que possible. Et il faut savoir... Alors c'est vrai, cette personne a une narcolepsie, ça c'est une maladie du sommeil, ok, mais ça se soigne aussi. Mais dans nos sociétés, le gros problème, c'est des troubles du comportement de la mise au lit. Les gens négligent le sommeil, les gens disent que ça ne sert à rien, les gens disent qu'ils ont autre chose à faire que d'aller dormir.
Les tablettes.
Alors oui.
Les ordinateurs.
Alors, non seulement les tablettes, parlons-en, parce que des études, donc des publications récentes ont clairement montré que la lumière des tablettes et des ordinateurs, c'est une lumière jour et donc ça empêche le sommeil. Si vous avez envie de vous distraire devant une série télé, il faut la regarder sur la télé et pas sur la tablette, parce que la lumière n'est pas la même.
C'est une lumière bleue qu'on rajoute sur les tablettes qui n'existent pas sur les écrans de télévision.
Et donc vraiment, alors oui, maintenant je ne vais pas dire que tous les gens qui dorment mal vont devenir déments, certainement pas, mais on sait, on le disait tout à l'heure, il faut mettre en place le maximum de choses pour nous protéger. Pourquoi? Parce que nous vieillissons tous un jour après l'autre, et je crois que d'en être conscient en le positivant plutôt qu'en ayant peur, ça nous permet quand même d'essayer de mettre le maximum de notre côté. Il y a toujours l'inéluctable qui va arriver. La nature est faite comme ça. Vous pouvez avoir la meilleure hygiène de vie possible et quand même développer des maladies, bien sûr.
Ou avoir une hygiène déplorable et ne jamais rien avoir.
Absolument, ça existe aussi. Oui, d'accord. Mais donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ces études-là ne sont pas du tout des 1 plus 1 égale 2. Vous dormez pas, vous fumez, vous aurez un Alzheimer. Non, sûrement pas. Mais ce sont ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et c'est intéressant de se pencher dessus et de voir ce qu'on peut en faire, ce qu'on choisit d'en faire.
11h midi.
Question clé
sur la première.
Avec Véronique Thiberghien.
Ah oui, mais moi, ça fait 20 ans que j'oublie des mots, Catherine Gillin, quand je suis dans une conversation. Sauf entre 11h et midi. Voilà. C'est sur antenne, sous les yeux. Mais alors, en dehors, c'est une catastrophe, parfois.
Bon, oui,
ça
mais...
fait 20 ans, je me
Oui, mais voilà, ça fait 20 ans et ça ne s'est pas aggravé. Non, donc, voilà, vous n'êtes pas...
Il y avait un bug au départ, on ne l'a pas réparé. Mais il n'est pas lié à la maladie d'Alzheimer.
Il est peut-être lié...
Non, il n'est pas lié, docteur Catherine.
Non, mais je veux dire, à notre vie trépidante, on demande à notre cerveau beaucoup trop en même temps.
Oui, c'est vrai qu'on est hyper sollicité, nos enfants seront pareils, espérons que la plasticité joue un peu son rôle, mais enfin, elle ne pourra pas non plus effacer la plupart des mauvaises habitudes que nous prenons parfois dans l'utilisation, comme celle des écrans, on l'a rappelé tout à l'heure. Joseph, existe-t-il des tests fiables pour voir si quelqu'un a un Alzheimer ? Le médecin de sa maman âgée est dans le déni total, nous dit-il. Alors c'est vrai qu'on a parlé des signes qui doivent évoquer que, mais le test qui dit « Ah oui, c'est ça c'est, et qu'est-ce qui, là par contre, il y a eu des petites recherches assez intéressantes et des avancées aussi.
Oui, et c'est vrai que cette question est pertinente parce qu'il faut... vraiment faire la part des choses entre une démence de type Alzheimer et une autre forme de démence, ne fût-ce que parce qu'effectivement, mettre un diagnostic précis nous permet d'avancer un pronostic, ce qui est quand même très important, de dire comment ça va évoluer. Les démences n'évoluent pas de la même façon selon leur origine. Et puis, parce que c'est la seule démence pour laquelle on a un traitement quand même. Même si c'est un traitement qui accompagne, qui ne guérit pas, on a quand même une médication. Dans les autres formes de démence, nous n'en avons pas. Donc, avoir un diagnostic aussi précis que possible, c'est très important. La première approche est une approche clinique, mais c'est tellement bien standardisé et spécifié que c'est vrai qu'en fonction des types de tests que l'on fait, on fait des tests dits neuropsychologiques, c'est-à-dire que l'on va effectivement aller explorer les différentes formes de mémoire, les différentes formes d'attention, les différentes formes de jugement, le graphisme, le langage, la concentration, enfin toutes ces sphères qui sont atteintes. Et là, on va dresser un profil du patient qui va pouvoir nous dire où on est vraiment potentiellement, statistiquement, plutôt dans un registre d'Alzheimer qu'autre chose. Maintenant, jusqu'à présent, officiellement, pour l'INAMI, ça suffit. En ayant exclu par imagerie qu'il y ait un problème vasculaire ou un problème tumoral. Oui. Nous, en neurologie, on aime bien aller un petit peu plus loin quand même. Donc, nous avons d'autres arguments diagnostiques à pouvoir avancer. La plus courante, c'est de faire une imagerie par résonance magnétique parce que les zones de la mémoire épisodique, les hippocampes, on les voit très bien à l'imagerie. On peut demander au neuroradiologue de faire des coupes très, très fines et d'évaluer le volume de ces hippocampes qui sont, comme on l'a dit, comme les neurones s'abîment, ils deviennent tout à fait petits et c'est un peu comme une éponge qui sèche, ça rétrécit et ça devient... Donc on a une analyse volumétrique qui nous permet de dire, tiens, on est potentiellement aussi dans le cas de cette maladie-là, compte tenu du fait, bien sûr, que ça doit être comparé au reste du volume du cerveau. Si quelqu'un a cette perte de volume qu'on appelle une atrophie, mais partout... On ne peut pas alors spécifier qu'on est dans une démence de type Alzheimer.
Il faut que ce soit les hippocampes qui marquent.
Ce sont les hippocampes qui sont vraiment fort atteints, même si le reste du cortex, donc de l'ensemble des neurones, peut commencer à s'atrophier aussi. Alors un troisième argument intéressant, c'est ce qu'on appelle le scanner cérébral à positron, que l'on appelle dans le jargon PET scan pour positron émission tomographie. Il ne faut pas croire que c'est un scan du PET, comme a dit une patiente un jour.
Mais non. C'est mignon.
Mais pourquoi vous me faites faire un scan du PET, docteur? Et donc... comme un petit
vous savez rire quand même dans vos cabines de neurologue.
Et donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a aussi une analyse par coupe, comme dans l'imagerie de résonance magnétique, mais on injecte un produit radioactif, comme dans toutes les scintigraphies, qui s'élimine, il ne faut pas avoir peur, et qui va aller être utilisé par les neurones. Et selon le produit radioactif que l'on met, on va étudier telle ou telle forme de fonctionnement. Et comme je vous le disais au tout départ, ce sont des zones anatomiques bien précises qui sont atteintes dans la maladie. On peut alors avoir une espèce de carte géographique qui nous dit, oui, on est plutôt dans l'Alzheimer que dans une frontotemporale ou dans une vasculaire pure ou des choses comme ça. Donc là, il y a des avancées qui sont faites. Pour l'instant, dans le courant, on a uniquement ce qu'on appelle le scanner au glucose, je vais dire au glucose marqué, parce que le glucose est tout à fait utilisé par les neurones. Mais on a sorti, c'est pas encore sur le commerce courant, dans la, enfin, commerce.
Dans la pratique,
quoi. Voilà, on va dire dans la pratique. Mais bon, c'est quand même une commercialisation, hein, oui. Je m'excuse, mais bon. Dans la pratique courante, on a des ligands sur l'amyloïde, ça existe. Et on commence à avoir des ligands sur la protéine tau dont on a parlé. Pour l'amyloïde, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui vieillit a de l'amyloïde. Comme on attrape des rides, on attrape des taches au niveau de la peau, on attrape des cheveux blancs, ça fait partie du vieillissement du cerveau d'avoir une certaine proportion d'amyloïdes, mais qui ne développe pas la maladie d'Alzheimer, puisqu'il faut d'autres choses. Il faut du tau, il faut une angiopathie à amyloïde, bref. Donc, plutôt, le PET scan à l'amyloïde, c'est plutôt si on a une suspicion et que le PET scan est normal, alors on peut dire que le patient ne l'a pas. Si on a une suspicion et que le PET scan est positif et pathologique, alors on est dans un processus à continuer à investiguer.
C'est ça.
Voilà.
C'est qu'on sait qu'il y a, quelque chose.
Il y a quelque chose, mais on ne peut pas encore affirmer vraiment que c'est une maladie d'Alzheimer. Dans le ligand tau, donc la protéine tau, là, on ne sait pas du tout encore que sur le marché, mais dans des expérimentations, on est en plein. Et ça, c'est plus prometteur puisque c'est plus en rapport. Et là, si un patient a et un amyloïde positif et un tau positif, on peut encore argumenter de façon supplémentaire et ça va arriver dans les années à venir, ça c'est clair. Et puis, il y a, et c'est quand même intéressant de le savoir, il ne faut pas hésiter à le faire, les analyses de sang, non. Là, je le dis tout de suite, c'est sorti dans la presse, on a essayé des tas de choses, non, il n'y a pas assez de marqueurs. Pourquoi ? Parce que nous avons la barrière hémato, hémato ça veut dire sang, encéphalique, l'encéphale c'est l'ensemble du cerveau, qui est vraiment très efficace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage entre tout ce qui circule dans le cerveau et le sang. Il y a vraiment des petites cellules qui sont très protectrices et qui ne font passer que telle ou telle ou telle chose. Donc, analyse de sang, on oublie en tout cas pour le moment. Par contre, prendre du liquide céphalorachidien par ponction lombaire, oui, ça a du sens. Ça permet d'étudier justement s'il y a une élévation de ce taux d'amyloïde et ce taux de tau.
Oui.
Et on a quand même une spécificité qui approche les 90%. Oui. Il faut le faire. Je suis convaincue qu'il faut le faire, non pas au tout venant à titre, comme on disait tout à l'heure, de dépistage.
Oui, tout le monde a 45 ans,
voilà.
Ouais, 50 ans.
Parce que nous n'avons pas de thérapie à proposer. Il y a certaines personnes qui sont dans des facteurs de risque, par exemple génétiques, familiaux, qui veulent savoir. Là, c'est des discussions dans des groupes éthiques, ça existe, ça a été fait. Par contre, si vous avez en face de vous une personne qui a effectivement des signes évocateurs, j'ai eu le cas d'une patiente dont la famille vraiment argumentait des signes qui m'évoquaient une maladie d'Alzheimer, mais les tests étaient assez bons, elle était dans les normes des points, le PET scan au glucose marqué était normal et je me suis dit non, vraiment, il y a quelque chose à aller voir. Et on a fait la ponction lombaire qui a affirmé qu'elle était déjà en route et donc on a pu traiter cette patiente très tôt. Ça, c'est intéressant parce que l'on sait que les médicaments que nous possédons, plus on les donne tôt, et plus on peut ralentir le processus. Ça ne sert à rien d'aller commencer si la personne a un Alzheimer depuis 5-6 ans. Mais s'il est au tout début, oui, on lui donne une qualité de vie supplémentaire pour les 2-3 années à venir.
Alors
c'est important.
Que fait ce traitement justement? Parce qu'on a parlé de traitement d'accompagnement, mais que fait-il exactement? Il ralentit la maladie ou il supprime certains symptômes de la maladie?
Alors, il atténue certains symptômes en suppléant un manque.
C'est ça.
On a, par des altérations diverses, peu importe, une baisse de l'acétylcholine dans les zones de la mémorisation. Et on apporte quelque chose qui va permettre d'augmenter le taux d'acétylcholine à ce niveau-là. Donc, au niveau de tout ce qui est processus de mémorisation immédiate, ça a du sens. Et ça marche. Pas chez tout le monde, c'est vrai qu'il y a des gens qui répondent pas, mais ça marche le plus souvent. Et sincèrement, pouvoir pendant 2-3 ans être encore assez présent, pertinent pour mettre ses papiers en ordre, pour discuter avec sa famille, pour avoir des relations socio-familiales intéressantes, je trouve que ça vaut la peine. Parce qu'il y a quand même aussi autre chose dont on a parlé, c'est les altérations de la personnalité. Et ça, c'est très très difficile. C'est difficile pour le patient qui se sent devenir différent et c'est terriblement difficile pour l'entourage, qui finalement perd quelqu'un. La personne physique reste là, mais la personne morale, mentale, éthique, presque philosophique, n'est plus la même.
Et c'est peut-être là qu'on a le plus avancé, finalement. Parce qu'on parle de traitement, et on dit aujourd'hui, on n'a pas de traitement curatif. Alors, on peut voir la bouteille à moitié pleine
tout
aussi,
à fait.
Et se dire, on n'a pas de traitement curatif pour le moment, mais on a éliminé toute une série de pistes dont on sait qu'aujourd'hui elles sont inutiles pour pouvoir se concentrer sur des pistes qui sont peut-être plus intéressantes aujourd'hui. Mais ce qui a quand même beaucoup avancé, c'est la prise en charge de la maladie aujourd'hui et de l'entourage, parce que de fait, c'est une maladie quand même qui est difficile à vivre, surtout pour l'entourage, mais aussi pour la personne quand même qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et là, il y a quand même beaucoup de choses qui ont avancé, heureusement, et beaucoup aussi de petits outils, entre guillemets, mais qui s'avèrent souvent efficaces, de prise en charge pour aider la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. J'avais un son, on n'aura pas le temps de le diffuser, mais qui parlait de l'orthophonie, par exemple, pour travailler sur la mémoire.
La musicothérapie.
Énormément de choses de ce point de vue-là. Donc, quand même, il faut encore beaucoup de patience. Parce que la recherche, on l'a dit, demande cette patience-là. Mm-hmm. Mais disons qu'on a éliminé une partie des pistes en se disant, voilà, ça ne sera pas utile d'aller voir.
Absolument. C'est positif de savoir ce qui ne marche pas, évidemment.
Oui.
On avance, ça c'est certain. Et c'est vrai, vous avez raison de le pointer, l'encadrement est fondamental. Au moins, la maladie est reconnue. Par contre, c'est un vrai combat au quotidien pour les familles. Il faut les accompagner, les aider. Il faut encore qu'elles l'acceptent. J'avoue qu'il y a beaucoup de conjoints qui ne veulent pas les aides. Ils veulent, entre guillemets, tout gérer. C'est un tort parce que vous ne pouvez pas être à la fois le conjoint, l'infirmière, l'aide-soignant, le psychologue. C'est pas possible. Donc, il faut accepter les aides. Ça permet à la personne de rester présente pour l'émotionnel, pour le quotidien et pas pour la lourdeur du reste qui est fait par des professionnels. Il faut aussi, effectivement, s'intéresser à toutes les thérapies comportementales qui peuvent aider le patient. Il ne faut pas hésiter aussi à donner aux patients des antidépresseurs parce qu'ils deviennent pratiquement tous déprimés. Éventuellement, s'ils ont des hallucinations, des troubles du comportement, des neuroleptiques. Et c'est un travail conjoint entre le médecin, le patient et son entourage. Et c'est un travail presque quotidien. Ouais. En tout cas, c'est un travail d'échange permanent qui doit être fait.
Et je voudrais qu'on mette peut-être les pendules à l'heure et on terminera avec ça, Catherine Gillin. Le fait que beaucoup de gens disent aujourd'hui « Ah, mais c'est quand même la maladie idéale parce qu'on oublie tout et finalement ça va pas plus loin. » Alors, il faut quand même préciser que la maladie, elle est évolutive différemment d'une personne à l'autre et qu'il y a des personnes qui se voient malades, qui se ressentent malades et qui pendant des années vivent avec cette idée-là qu'ils ne sont plus tout à fait eux-mêmes et c'est une vraie souffrance pour ces
personnes. Non, vous avez tout à fait raison. Il y a vraiment une pertinence de la maladie qui est très présente chez les patients et qui ne se reconnaissent pas et qui en souffrent. Il faut, c'est pas du tout une truc sympa à voir.
Non, et c'est pas parce qu'on oublie que c'est mieux. Et surtout pour l'entourage, évidemment, comme on l'a précisé.
Mais ça, c'est plus tardivement, mais précocement, pour le patient, c'est terrible.
Les traitements, donc, il y a quand même pas mal de recherches qui sont faites aujourd'hui. Vous avez été nombreux à nous contacter pour nous demander, et cette recherche-là en particulier, est-ce qu'elle avance ? Difficile de faire le point aujourd'hui. On sait à l'heure d'aujourd'hui où on fait notre émission le 19 septembre qu'il n'y a pas de traitement curatif et que ça ne sera pas pour demain non plus, malheureusement, qu'il faudra encore quelques années, mais que les chercheurs poursuivent, par contre.
Et que les gens prennent soin d'eux.
Oui.
Voilà.
Voilà. Bien dormir.
Manger correctement.
Enfin, respecter son sommeil, on va dire.
Voilà. Respecter son sommeil, manger correctement, bouger, s'aérer et puis être serein.
Donc, rester raisonnable au fond dans la vie dans laquelle on est.
On peut faire des petits excès, bien sûr, mais pas tous les jours.
Oui, non, bah, voilà. C'est ça, être raisonnable. Pour moi, je ne me prive pas d'excès, je me rassure tout de suite. Non, bien sûr.
Avoir du plaisir, c'est important aussi.
Exactement. Hein. Et ben, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir, Catherine Gillin, à revenir dans cette émission.
Oui, merci beaucoup.
Et on vous retrouvera très bientôt, je l'espère. On devrait refaire une émission sur le sommeil parce que vous avez été nombreux à nous interpeller sur cette question-là du sommeil qui n'est vraiment pas réglée, hein, Catherine Gillin. On ne dort toujours pas bien dans notre vie et on va pouvoir en reparler. En tout cas, merci beaucoup d'être venue dans cette émission.
Avec grand plaisir.
Et on espère vous retrouver très vite.
Podcast La Première.